La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de l'archipel Muse. Au programme de notre navigation du jour, nous vous proposons d'attraper combinaisons, palmes et bouteilles, océan, mer, golfe ou lagon, plongez à la découverte des êtres fascinants qui la peuplent. Comment ? Vous ne voyez rien ? Pas un mérou, pas un thon, ni même un esturgeon ? Et pour cause, depuis les années 50, le volume de la pêche industrielle a été multiplié par 4, passant de 20 millions de tonnes à 80 millions. Au total, 55% des océans sont exploités par la pêche, tandis que les aires marines protégées ne couvrent même pas 7% de la surface des océans. Quant aux réserves marines, elles couvrent un petit 3,4%. En 2010, pourtant, les objectifs d'Aichi engageaient les États membres des Nations Unies à placer sous protection 10% de leurs aires marines d'ici à 2020. Un pari manqué alors que la situation ne cesse de se dégrader sous l'effet du réchauffement climatique et de la pression humaine. Notre invité du jour est biologiste marin au laboratoire Marbec pour Marine Biodiversity Exploitation and Conservation. Il est spécialiste de la conservation de la biodiversité sous-marine et alerte à travers ses nombreuses publications dans Nature, PLOS Biology ou Proceedings of the Royal Society B sur l'urgence de mettre en place des mesures de protection efficaces pour la survie de la faune sous-marine. David Mouillot, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour mener cette interview, la pélagique Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, le reportage en salle des machines vous emmène au bloc opératoire du CHU de Montpellier pour une rencontre avec Rosacni, un robot chirurgien spécialiste de la prothèse du genou. Et c'est François Canovas, responsable du pôle os et articulations, qui nous fait la visite. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors David Mouillot, après ce lancement difficile pour moi, on va commencer par une question très simple. Une aire marine protégée, qu'est-ce que c'est ?
Alors une aire marine protégée, c'est vrai que le nom est très générique, très général, et dessous cette appellation, qui est une restriction sur une échelle géographique des activités humaines ou d'extraction, bah finalement on a différentes législations, différents niveaux de restriction, allant de la no-entry, donc là on ne peut même pas pénétrer à l'intérieur de la réserve ou de l'AMP, jusqu'à des restrictions extrêmement légères, empêchant par exemple des activités extrêmement dures de chalutage ou d'extraction physique de parties de l'environnement.
Donc quand on parlait en introduction, je parlais de 7%, je crois que c'est un peu plus de 7% peut-être. Là, on parle des aires marines protégées dans leur totalité.
C'est ça qui est un peu vicieux, c'est qu'on a l'impression que 7% ce n'est pas négligeable. Mais quand on regarde sur ce qui est vraiment protégé au sens écologique, on tombe rapidement à 4%, voire à moins de 1% en Méditerranée. Donc on a l'impression qu'à travers ces aires marines protégées qu'on voit un peu partout mises en avant, on a quand même une sorte d'assurance par rapport à la biologie et l'écologie. En fait, pas du tout. On a beaucoup d'endroits qui présentent en fait finalement une protection extrêmement limitée.
Alors, dans une étude qui a été publiée en mars 2020 dans Nature, vous proposez une solution qui permettrait de sauvegarder plus de 80% des habitats d'espèces marines menacées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ?
Mais en fait, on a simplement cherché à optimiser le futur réseau de réserve idéal, plutôt que faire confiance aux États, parce qu'en fait, on a des grosses hétérogénéités. Hein. Certains États sont très en avance sur la mise en protection des océans. La France en fait partie. Hein. On atteint vraiment quasiment entre 15 et 20% actuellement. Les États-Unis sont très en avance. Et certains pays ont beaucoup de retard. Donc plutôt que faire confiance aux États ou aux régions, le but est d'avoir une vision globale en optimisant le réseau de réserve pour protéger un maximum d'espèces dans les océans, en protégeant minimum 10% de leur habitat. Donc, c'est-à-dire que chaque espèce aurait un minimum de leur aire de répartition qui serait protégée. Et on aboutit à ce fameux chiffre pour que la plupart des espèces de l'océan aient quelque part des refuges.
Alors, comment vous avez procédé ? Quelle méthodologie vous avez adoptée pour identifier ces zones idéales ou optimales ?
Alors c'est de la pure optimisation mathématique, hein, c'est là que l'interdisciplinaire est intéressant. On interagit avec beaucoup de gens qui font de l'optimisation en maths, notamment le premier auteur qui est un postdoc qui a un gros bagage en mathématiques. Et la base, hein, vraiment la nourriture de cet algorithme, ce sont toutes les aires de répartition des espèces. Donc c'est vraiment beaucoup d'informations au niveau local. Où on va recréer finalement les aires de répartition des espèces et identifier les gaps ou en tout cas les manquements qu'elles peuvent avoir sur certaines zones pour être pleinement protégées. Et après on met tout ça dans un système qui cherche à optimiser les futurs emplacements. Indépendant des considérations politiques, socio-économiques, etc. C'est le réseau idéal.
Alors, dans cette même étude, vous dites aussi qu'en créant plus d'aires marines protégées, ça permettrait également de réduire les émissions de dioxyde de carbone provoquées par le chalutage. Alors, déjà rapidement, est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est que le chalutage ?
C'est vrai que ça, c'est un message qu'on avait peut-être sous-estimé au début de l'article. Car on avait quelques données nous permettant de savoir, le sédiment stocke beaucoup de carbone au fond des océans. Hein. Et finalement, le chalutage, qui est une façon de racler le fond pour récolter les espèces qui vont être vendues ensuite, finalement, on va remettre en suspension tout ce carbone enseveli dans le sédiment pendant des millénaires, à une échelle géologique, hein, contrairement à un arbre qui va se décomposer, tout son carbone retourne dans l'atmosphère. Si vous prenez un animal qui coule au fond de l'océan, son carbone est enseveli pour des millénaires, en fait. Hein. Sauf avec le chalutage, qui va remettre en suspension ce carbone et qui va donc revenir dans l'atmosphère pour recréer l'effet de serre.
Et est-ce qu'on sait chiffrer la pollution provoquée par le chalutage, justement ? Est-ce qu'on a un élément de comparaison ?
Alors pour tout vous dire, hein, l'article dans Nature a subi trois révisions parce que les reviewers et l'éditeur ont buté là-dessus. Ils ont voulu absolument qu'on quantifie cette resuspension de carbone. Et on a estimé que c'était l'équivalent de tout ce qui était émis dans l'atmosphère par le trafic aérien, hors Covid, hein, près 2020, en une année. Donc c'est vraiment énorme. Donc en fait, ce sont des millions de tonnes de carbone qui sont bien sûr réémis à cause de cette remise en suspension d'un carbone qui serait normalement enseveli. Ça revient à finalement sortir du pétrole de sous terre pour le remettre dans nos voitures, quoi. C'est la même chose, on le remet à disposition dans l'atmosphère.
Et du coup, pour faire un peu plus directement le lien, en quoi est-ce que le fait de créer plus d'aires marines protégées, ça permettrait de réduire ces émissions de gaz à effet de serre ?
Alors ça le permettrait vraiment à deux niveaux. Un premier niveau, c'est qu'il y a plein de zones de l'océan dans lesquelles on a de la pêche, qui sont très loin des ports et de l'homme, donc qui coûtent beaucoup d'essence et d'argent pour aller les rejoindre. Vous allez me dire, mais c'est complètement idiot d'aller pêcher au sud du Pacifique. Mais simplement, les subventions font que ça devient rentable. Donc grâce aux subventions, si vous voulez, ce qui n'est pas rentable redevient. Et donc c'est pour ça qu'on va exploiter quasiment tout l'océan, même si c'est à perte. Donc ça n'a aucun sens. Et ça, c'est une première source d'émissions de carbone, parce qu'on va consommer beaucoup de carburant pour aller chercher de la protéine qui est située très loin de l'homme, finalement. C'est comme cultiver ou avoir de l'ananas en plein hiver ou des fraises en décembre, quoi. C'est vraiment totalement aberrant, parce qu'on met plus de carbone, finalement, dans le produit lui-même. Donc c'est carrément aberrant. Et le second aspect important, c'est que quand on va chaluter, on va bien sûr remettre en suspension ce carbone. Donc ça, c'est du vieux carbone enseveli, ce n'est pas du nouveau carbone, qu'on va remettre dans l'atmosphère. Et bien sûr, ça va augmenter le changement climatique par effet de serre. Donc double effet.
Alors ces mesures, selon le communiqué de presse, elles pourraient également contribuer à un meilleur approvisionnement en ressources alimentaires marines. Autrement dit, pour augmenter le rendement de la pêche de 8 millions de tonnes. Donc pourquoi vouloir augmenter ce rendement alors qu'on parle déjà de surpêche ?
Oui, alors ça, c'est un résultat un peu contre-intuitif dans nos simulations qui sont sorties. Là, avec le niveau de protection que l'on a, ce qu'on a fait, on a fait des simulations. Et on s'aperçoit que quand on met plus de réserves, finalement, les stocks se portent mieux. Et par exportation en dehors des réserves, finalement, la pêche va augmenter ses rendements. Tout ça parce qu'on a des populations qui sont en meilleur état. Donc c'est pas forcément intuitif de voir que, finalement, en mettant la moitié de l'océan, c'est là où on aurait finalement des rendements les plus élevés. Si on met l'océan complet en réserve, il n'y a plus de pêche. Donc tout s'écroule, on est à zéro, on enlève la pêche. Ça va être totalement aberrant. Et quand on ne met pas assez de réserves, comme on surexploite l'ensemble de l'océan, finalement, on est mauvais là aussi parce qu'on va arriver à zéro, on va vider la mer en fait. Et donc c'est pour un niveau intermédiaire de protection que l'on va finalement optimiser. Donc c'est du gagnant-gagnant entre bien sûr la biodiversité et la pêche, car les pêcheurs vont s'y retrouver en augmentant leur rendement. Ça veut dire que pour la même quantité d'essence consommée, pour le même temps de travail, on aura plus de revenus et donc du poisson en plus d'abondance.
Alors, vous travaillez sur les aires marines protégées depuis de nombreuses années. Et comment est-ce que vous faites pour évaluer si elles sont efficaces ?
Ça, c'est un vaste débat, parce qu'en plus, on a l'efficacité biologique, écologique, celle que l'on voit, et l'efficacité socio-économique, que l'on ne voit pas, qu'elle est difficile de mesurer. Donc, je vais venir au premier aspect, c'est relativement simple. Hein. On a des designs ou des plans d'expérimentation assez simples hein, que nos étudiants adorent mettre en place. Hein. On fait ça tout l'été. On va mettre en place un protocole à l'intérieur de la réserve, soit en plongée, en simplement notant l'abondance des poissons, ou par ADN environnemental. On récupère leur ADN, on l'analyse pour voir quelles sont les espèces présentes, celles qui sont petites, nocturnes, un peu méfiantes, qu'on ne voit pas forcément à l'œil, mais qui vont quand même laisser leurs traces d'ADN. On choisit un site analogue à l'extérieur de la réserve et on travaille par comparaison.
Et alors, justement, vous nous parlez d'ADN environnemental. Est-ce qu'on peut développer un peu cette technique-là? Je pense qu'elle n'est pas forcément connue de tout le monde. C'est une technique qui a été développée à Montpellier, c'est ça?
Alors, pas à Montpellier, pour être honnête. Hein, c'est un labo vraiment grenoblois qui s'appelle SpyGen, qui est issu d'un laboratoire public, hein, le LECA. Ils ont tout d'abord développé ça pour les lacs de montagne, en faisant l'hypothèse que finalement, tout être vivant, vous comme moi, hein, on laisse aujourd'hui, sans avoir de cheveux, hein, de l'ADN environnemental dans l'air, sur les murs, simplement en respirant, à travers la sueur, etc., etc. Et donc, en filtrant ces petits brins d'ADN, on arrive à retrouver que c'était vous ou moi. Et ça, on l'applique dans la mer. Au départ, on n'y croyait pas, parce que autant un lac de montagne, c'est petit, la masse d'eau n'est pas forcément énorme. En plein océan, ça semble fou de se dire qu'on va récupérer des brins d'ADN dans ce volume immense. Et on a démontré la faisabilité, on était les premiers à faire ça en 2018, dans une publication que vous nous aviez relayée en Calédonie. Et depuis, ça devient un standard. Donc SpyGen nous accompagne. Donc c'est vraiment le lien entre Marbec et SpyGen qui a été mis en place d'abord par MUSE, hein, notre université, à travers un Companies on Campus qui a attiré SpyGen chez nous, puis par un LabCom, donc un laboratoire commun public-privé, pour être les premiers à avoir tous les moyens vraiment de filtration d'ADN en mer, de manière stérile, étanche, même à de grandes profondeurs. Donc on est vraiment un labo leader permettant de récolter, d'échantillonner, de se filtrer de ces brins d'ADN et les analyser pour savoir quelles espèces sont présentes quand on filtre, mais aussi dans les dernières 24 heures.
Alors donc grâce à cette technique de l'ADN environnemental, vous avez donc pu évaluer quelle population de poissons vivait dans certaines aires marines protégées, et vous avez notamment montré que donc la mégafaune, les requins notamment, on les trouvait à 59%, je crois, je suis en train de chercher, à 59% dans les récifs éloignés, donc dans les AMP très éloignés de l'homme, et à seulement 1% dans les réserves plus proches. Donc comment on explique ça, et dans ces cas-là, quelles utilités elles ont, ces aires marines plus proches?
C'est vrai que c'était un des résultats majeurs, hein. Autant pour les poissons, on va dire, classiques. Les aires marines protégées, leur efficacité biologique, écologique, ne fait aucun doute. Hein. Tout le monde a pu voir dans nos réserves, ici en Méditerranée, qu'on a plus de sars, par exemple, de rougets, de loups, de dorades, dans l'aire marine protégée qu'à l'extérieur. Par contre, pour la grande faune, c'est plus compliqué. D'ailleurs, si chacun a pu plonger soit à Banyuls, soit peut-être à Carry-le-Rouet ou à d'autres réserves en Méditerranée, peu ont peut-être vu des requins, des raies, donc des très gros individus. Simplement parce qu'on a deux hypothèses. La première, c'est que finalement, quand l'homme est présent, même si on met une aire marine protégée, quand tout est exploité aux alentours, ce sont des espèces avec des aires, enfin des home range comme vous et moi, hein, où vous êtes peut-être 3 km par jour, le requin il va en faire 10 ou 20. Si on a une aire protégée qui fait 5 km de longueur, forcément le requin va sortir, va se faire attraper. Donc ça c'est la première hypothèse, c'est que les AMP sont sous-dimensionnés par rapport à cette grande faune qui a besoin de beaucoup d'espace. Donc ils sont pêchés, ils ont disparu de la région. Ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse c'est qu'ils ont changé totalement leur comportement. Donc c'est ça qu'on a beaucoup étudié en Calédonie, car on s'aperçoit que les requins qui vivent près de l'homme ont totalement modifié leur comportement. Ils ne viennent que la nuit, et dès qu'on s'approche, ils ne sont plus là. Donc en fait, on a le paradoxe, on ne les voit jamais, mais ils laissent leur ADN environnemental. C'est comme les loups à Grenoble, ou dans des sites près des sentiers de marche, on ne voit jamais les loups en montagne, quasiment pas. Enfin moi, je fais beaucoup de montagne, j'en vois jamais. Par contre, l'ADN environnemental révèle qu'ils sont partout. Les requins, c'est pareil. Ils sont proches de Nouméa, mais on ne les voit jamais. Donc ça, c'est aussi un paradoxe, c'est que la grande faune s'est parfaitement adaptée, d'un point de vue comportemental, à essayer d'éviter l'homme pour coexister de manière plus paisible.
Alors, vous avez également montré dans une étude précédente que pour que ces aires marines protégées soient efficaces, il fallait qu'elles soient mieux connectées entre elles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie?
En fait, c'est un peu comme les Touaregs dans le désert. Vous êtes d'accord que pour traverser, il faut des oasis qui vont vous permettre d'aller à l'étape suivante. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que face au changement climatique, c'est important de pouvoir migrer, s'adapter, changer de lieu. Si un lieu, si on a une maladie, s'il y a une surpêche, si une aire marine protégée, par exemple, est totalement braconnée, ou s'il y a une maladie qui se développe, ou des algues, c'est que l'espèce puisse traverser le désert, donc des zones extrêmement pêchées où l'espèce est vulnérable, pour aller sur le prochain refuge. Donc c'est un peu comme, vous savez, les petits pas chinois pour traverser une rivière. C'est une succession de refuges qui vont permettre par connectivité d'assurer à la population de pouvoir bouger et de trouver des échappatoires au climat ou à une pression humaine démesurée.
Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas assez connectées entre elles, ces aires marines protégées ?
Et non, malheureusement. Malheureusement, pour l'instant, on a vraiment un manque de connectivité. On a quelques zones très bien connectées. L'Europe du Nord est bien connectée. Les aires marines protégées australiennes le sont. Mais on a des gros manquements dans ces pas chinois. Il y a des gros sauts qui sont encore nécessaires aux espèces pour trouver un refuge ailleurs. Donc on essaye vraiment d'augmenter le réseau pour que la connectivité soit quasiment totale à l'échelle du globe.
Alors, vous militez également pour créer davantage de no-entry zones. Donc, ça va nous permettre de parler d'une expérience que vous avez vécue l'année dernière. Vous avez fait partie des rares scientifiques à pouvoir faire du terrain pendant le confinement et observer la mer, donc quand les poissons, eux, ne l'étaient plus confinés. Qu'est-ce que vous avez observé ?
Alors, pour revenir au no-entry zone, c'est pas que j'étais un fan au départ, mais là, on mène une étude en ce moment sur la fréquentation en bateau dans les réserves méditerranéennes. Et on aboutit à un paradoxe. Les endroits qui sont le plus protégés attirent tellement de public que ce sont les endroits les plus fréquentés. Donc vous voyez un peu le piège de l'aire marine protégée, son label et son appellation, qui va créer vraiment une attractivité sur le public et finalement qui vont représenter des zones extrêmement fréquentées aux pics estivaux. Donc ça, c'est un premier problème. Et ensuite, en Calédonie, on s'est aperçu que les no-entry, c'est un des rares endroits où certaines réserves sont totalement no-entry, donc c'est pas qu'on n'a pas le droit de pêcher, c'est qu'on ne peut même pas pénétrer dans la réserve, même en canot pneumatique ou à la nage. Donc vraiment, on ne dérange pas. Et on s'aperçoit que le comportement joue beaucoup, notamment en période de reproduction pour la grande faune. Même si on y va pour plonger, ça dérange la grande faune, ça dérange les périodes de reproduction. Donc le no-entry, c'est le sanctuaire ultime. Et on pense que certaines zones mériteraient d'être mises en no-entry pour vraiment laisser tranquille la nature. Et justement, ce confinement nous a créé des no-entry en mars-avril 2020, par cet épisode dramatique par certains aspects, mais les résultats nous montrent que pendant que nous, on confinait, la faune, finalement, en tout cas les poissons, les requins, les mammifères marins, ont totalement déconfiné. Ça veut dire que quand nous, on est là, eux confinent complètement. Et cet épisode de confinement humain a relâché finalement près des côtes beaucoup d'espèces qu'on ne voyait plus. Donc ce n'est pas démographique, ils ne sont pas apparus comme ça, c'est simplement qu'ils sont loin, profonds, en tout cas qu'ils ne viennent plus sur nos côtes. Donc là, c'est une belle expérience permettant de simuler ce que serait une côte no-entry.
Alors vous avez publié en avril 2021 une autre étude dans la revue Proceedings of the Royal Society B, une étude surprenante qui montre, entre autres, que certaines espèces vivent préférentiellement dans des zones anthropisées. Est-ce que ça veut dire que les aires marines protégées redessinent la carte de la biodiversité océanique ?
Et je vais être obligée de vous demander d'y répondre très rapidement parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview.
Quel dommage, c'est la question la plus passionnante.
On a gardé le meilleur pour
voilà,
la fin.
C'est vraiment une question sympa parce qu'on ne s'attendait pas à ce résultat-là. La croyance voudrait que finalement, à l'extérieur, il y a bien sûr ce qu'on voit à l'intérieur, sauf celles qui sont les plus vulnérables. Donc si vous voulez, c'est les poupées russes, quoi. Une zone no-entry aurait toutes les espèces et une zone non protégée ou pêchée aurait un peu moins d'espèces. Et en fait, on a trouvé le même nombre d'espèces, mais pas les mêmes. Donc l'équivalent des pigeons qu'on a dans les villes, le pigeon est bien mieux dans la ville qu'à l'extérieur, où certaines souris, certains rats, certains animaux sont bien plus présents en ville qu'à l'extérieur, à la campagne en fait. Donc ce qu'on observe en terrestre, en fait, on pensait que dans le marin ça n'existait pas. En fait, si. On a des espèces qu'on ne voit qu'à l'extérieur des aires protégées, donc qui ne sont bien soit que dans les ports, dans les zones pêchées, etc. etc. Ce sont en général des détritivores, des petites espèces, tous les gobies, les apogons qu'on voit rarement, ou les mulets dans les ports, tout le monde connaît ça. Donc en fait, certaines espèces sont bien mieux dans un environnement, dans un habitat totalement anthropisé, sous pression humaine, qu'à l'intérieur des réserves marines. Donc si on veut maximiser la biodiversité à l'échelle régionale, l'idéal, c'est d'avoir en fait une sorte de mosaïque ou d'une myriade de protections différentes pour assurer cette grande diversité, on va dire, à tout niveau.
Alors pour terminer, on n'a pas trop le temps d'aborder la portée éminemment politique de vos études, mais on le sait que vous le faites évidemment aussi pour faire de l'aide à la décision, donc que les gouvernements prennent les bonnes décisions pour protéger leurs aires marines tout court. L'objectif 2030, c'est lequel ?
Et bien là, donc, c'est vrai qu'en Calédonie, on a réussi grâce à ces zones pristines qu'on a démontrées à faire mettre en réserve certaines zones qui n'étaient pas avant. Donc là, c'est pour moi l'aboutissement ultime, au-delà des publications, des étudiants, tout ça, c'est l'aboutissement ultime, c'est qu'on augmente le réseau d'aires marines protégées. Et là, notre premier auteur de l'étude en mars, là, va aller à la COP15, a été vraiment quelqu'un qui aura une grande voix à l'ONU à l'automne, là, pour justement proposer son plan d'action concernant la haute mer, donc ce sont des zones internationales, hein, donc un bien commun de l'humanité, pour proposer des zones prioritaires de mise en réserve, ou en tout cas d'aires marines protégées, avec au moins une restriction de pêche. Donc on espère que la portée de l'article de Nature de mars 2021 se traduira vraiment dans des zones qui sont pour nous les zones les plus efficaces en termes de placement d'aires marines protégées futures.
Merci beaucoup David Mouilleux d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Et on passe maintenant à notre rubrique en salle des machines où Aline s'est rendue au bloc opératoire du CHU.
Oui, doté d'un bras articulé, le robot Rosani assiste les chirurgiens orthopédiques dans la pose de prothèse totale du genou. Déjà 40 opérations de ce type ont été réalisées avec ce robot que le CHU de Montpellier est le premier en France à utiliser. On suit les explications de François Canovas, responsable du pôle os et articulation à l'hôpital La Péronie.
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Je suis le professeur François Canovas, je suis chef de l'unité, responsable de l'unité du service de chirurgie du membre inférieur et je suis responsable du pôle os articulation.
Et alors là, on est donc au sous-sol de l'hôpital La Péronie, on est au bloc opératoire et on est avec devant un robot qui s'appelle Rosani, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, ni pour genou.
Genou, c'est le robot Rosa que nous utilisons depuis le début de l'année 2021 pour la mise en place des prothèses totales du genou.
Alors je vais le décrire un petit peu, il fait, donc on a une grosse base blanche avec un bras articulé, bras replié comme ça, il fait à peu près 1,60 m de haut. Avec un écran connecté. Oui. Comment il fonctionne ce robot ?
Eh bien, il fonctionne avec un bras articulé. En fait, on prépare l'intervention chirurgicale, on lui donne des données à partir d'un petit format informatique. Et à partir du moment où les données sont incorporées avec une clé USB dans le robot, il va réaliser tout simplement les tâches qu'on va lui demander en termes de technique chirurgicale.
Et quand vous parlez de données, excusez-moi, c'est quel type de données ? On donne des données médicales du patient ?
Non, ce sont des données en fait requises par le chirurgien qui va positionner ses implants en fonction d'impératifs anatomiques. Par exemple, il faut être perpendiculaire à l'axe mécanique du fémur, perpendiculaire à l'axe mécanique du tibia. Donc, on va rentrer toutes ces données-là. Et le robot, en fait, c'est une assistance à la chirurgie. Le robot ne réalise pas l'intervention chirurgicale. Le robot, il est là pour préparer et aider l'intervention chirurgicale en fonction des critères qui sont définis par le chirurgien. Alors, c'est une intervention qui est menée avec un système de navigation que vous avez de l'autre côté. Hein, c'est qu'on va positionner des fiches à la fois dans le fémur et dans le tibia du patient et pour avoir un repérage, si vous voulez, 3D du genou. Et en fonction de ces repérages, on va pouvoir justement mettre en place cette prothèse avec le robot.
Et alors, je décris le système de navigation dont vous m'avez parlé. C'est un grand pied avec de nouveau un écran. C'est ça que vous allez utiliser ?
Alors ça, c'est le système de navigation. C'est-à-dire que c'est le système qui va repérer les capteurs qui sont mis en place autour du genou, c'est-à-dire au niveau du fémur et au niveau du tibia. Et à partir de ça, si vous voulez, ces données sont incorporées dans la machine, sont traitées, et on peut réaliser à ce moment-là le geste tel qu'il a été souhaité en fonction de critères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, anatomiques.
Et alors, juste, je m'approche du robot pour voir ce qu'il y a au bout du bras articulé. On voit une espèce de tête ronde avec plusieurs emplacements. On y met des outils chirurgicaux ? Qu'est-ce qu'on met là ?
Non, mais pas d'outils chirurgicaux. On va positionner dessus des gabarits qui vont nous permettre de faire des coupes. Et le gabarit, on va positionner le gabarit de coupe tibiale. Et on va pincer, on va brocher ce gabarit de coupe tibiale. On va couper l'os robot en place. Et on va faire la même chose sur l'extrémité distale du fémur et aussi au niveau des coupes des chanfreins, c'est-à-dire les coupes antérieures et les coupes postérieures au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Donc il y a trois temps avec le robot, l'extrémité supérieure du tibia, l'extrémité distale du fémur et puis les coupes des chanfreins qui sont faites à partir de ce bras articulé, c'est-à-dire que le robot va se positionner face à l'extrémité supérieure du tibia, face à l'extrémité inférieure du fémur, pour positionner le guide de coupe et à partir du moment où le guide de coupe est positionné, faire nos coupes.
Et donc là, c'est le chirurgien qui garde la main sur l'opération.
Exactement. Le robot va nous aider finalement à positionner le guide de coupe en fonction de critères que l'on aura définis en préopératoire. Et à partir du moment où ces données sont effectives, le robot, lui, s'attache et de le rendre réel, pratique, sur le patient. Et après, c'est nous qui réalisons effectivement manuellement les coupes.
Et alors, vous m'avez dit que vous l'aviez depuis début 2021, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Avez réalisé combien d'opérations de prothèses du genou avec ce robot?
On a réalisé avec le robot 30 à 40 depuis le début de l'année.
Et avec quel avantage par rapport à une opération similaire qu'on ferait sans le robot?
Alors, les avantages, il faudra quand même, à partir de prochaines études, pouvoir évaluer l'efficacité du robot. En tout état de cause, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une qualité, si vous voulez, une précision beaucoup plus importante qu'avec les outils traditionnels de mise en place d'une prothèse totale de genou. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, on est beaucoup plus performant en termes techniques opératoires, et ce qui a un retentissement sur le post-opératoire et probablement sur le devenir des implants. Mais ça, c'est encore des choses à démontrer. Mais en tout état de cause, le robot est d'une précision extraordinaire, qu'on ne peut pas avoir avec des instruments manuels qu'on utilise classiquement.
Et pour le patient qui s'est fait poser une prothèse de genou avec ce robot, est-ce que ça change quelque chose?
Bah pour lui, ça, on espère que ça va changer quelque chose, parce qu'on espère que ça va améliorer tout simplement le positionnement des implants. Améliorer le positionnement des implants aura forcément un retentissement sur le résultat de ces implants sur le malade. Et on espère, la précision étant beaucoup plus importante, nos implants seront mieux positionnés avec moins de complications post-opératoires. Ce dont on s'aperçoit dès maintenant, c'est qu'avec le robot, on fait beaucoup moins de gestes associés au niveau des parties molles, et que finalement, avec une bonne résection osseuse qui est faite en fonction du protocole qui est défini, encore une fois, en préopératoire, on réalise beaucoup moins de chirurgie extensive, et donc il y a moins de saignements, moins de douleurs post-opératoires et une réhabilitation, une récupération plus rapide chez les patients.
Est-ce que c'est moins invasif ou est-ce que c'est pareil?
Alors, moins invasif, non, parce qu'on peut faire des petites incisions, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez faire des abords classiques, des mini-abords, mais il est moins invasif dans la mesure où on fait moins de gestes sur les parties molles, ça c'est une évidence, oui.
Et alors, je décris de nouveau ce qu'on voit dessus sur le robot, il est marqué Zimmer Biomet, ça c'est l'entreprise qui l'a fabriqué?
Absolument. En fait, on a acquis, quoi. On travaille avec ce robot tout simplement parce que nous mettons depuis des décennies des implants de chez Zimmer, de la société qui s'appelle Zimmer Biomet, et ils ont mis au point ce robot à partir d'une expérience qui est Montpellier-Rennes avec MedTech.
Donc il est fabriqué à Montpellier?
C'est un robot qui est fabriqué à Montpellier. La société Zimmer Biomet est une société américaine, et ils ont fait appel au savoir-faire français pour la mise au point de ce robot. Et ce robot, il est exporté dans le monde entier à partir de l'unité de fabrication à Montpellier.
Et combien est-ce que ça coûte un robot comme celui-là?
Alors, un robot comme celui-là vaut à peu près 1 million d'euros.
D'accord. Et est-ce que il y a le chirurgien, j'imagine qu'il y a une équipe médicale tout autour du patient pendant l'opération. Vous avez dû former toute l'équipe médicale à l'utilisation de ce robot?
Alors, on a eu nous-mêmes une période de formation sur OSSEC, avec des démonstrations avec les promoteurs de cette technique. Le personnel aussi paramédical a été formé à cela. Et nos premières poses ont été réalisées avec la collaboration des ingénieurs de la société Zimmer Biomet pour nous aider justement à bien comprendre et à manipuler correctement ce robot.
Et alors là, donc, il s'appelle Rosacni, on l'a dit, donc pour genou, il est spécifique du genou. Est-ce qu'il existe d'autres robots spécifiques, par exemple pour poser des prothèses de la hanche ou de l'épaule, d'autres articulations?
Non, pas chez Zimmer Biomet. Ils sont en train de travailler effectivement sur la hanche pour avoir un outil là aussi robotique pour installer des prothèses totales de hanche. Mais dans l'immédiat, c'est la seule application chez Zimmer Biomet. Elle concerne uniquement le genou.
Et il y en a combien des robots comme celui-là en France?
Alors, nous avons été le premier à obtenir ce robot en France. Il y a d'autres centres qui vont faire l'acquisition. Je pense à Versailles, je pense peut-être à Nice. Mais dans l'immédiat, c'est le seul robot qui est en état de fonctionnement au niveau de la France.
Merci beaucoup, professeur Canovas.
La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, comme toujours, Bruno Bertrand. On se retrouve la semaine prochaine pour notre toute dernière émission de la saison. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.